Salutations chers auditeurs et auditrices de Radio G, bienvenue dans l'émission Les Voix de l'Écho. Je suis Yves Maguin et pendant 50 minutes, nous allons aborder les thèmes de l'entrepreneuriat, de l'écologie, puis du développement économique local et éco-responsable. Cette émission est ponctuée de plusieurs temps forts avec un invité, une ou plusieurs chroniques en fonction des semaines, ainsi qu'une pause musicale choisie par l'invité. Alors, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Et oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio G. Et oui, à l'écoute de l'émission Les Voix de l'Écho. Certaines personnes aiment terminer leur repas avec quelque chose de sucré. J'avoue être plutôt de la team salée, mais il faut avouer que ce dont on va parler aujourd'hui avec notre invité du jour est un vrai régal. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans l'émission de chroniqueurs en studio, nous aurons en première partie d'émission la suite de la chronique d'Alexis Desjeux qu'il a commencé lors de la dernière émission. Bonjour Alexis, pouvez-vous nous redire ce dont vous allez nous parler aujourd'hui?
Bonjour Yves, bonjour chers auditeurs. Donc nous avions abordé les facteurs qui nous font manquer d'assertivité la semaine dernière. Et bien après les pensées limitantes, nous verrons aujourd'hui l'éducation à la française et les codes de votre environnement professionnel.
Très intéressant. D'ailleurs Alexis, vous êtes plutôt team sucré ou team salé?
Salé.
Salé aussi, d'accord. On retrouve donc votre chronique dans une quinzaine de minutes et également en studio, le chef Hervé Chéneau. Bonjour chef, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Eh ben bonjour Yves, bonjour à tous. Ben aujourd'hui, on va revenir du temps de ma grand-mère avec une coiffe dans le potage.
Une coiffe dans le potage, assez curieuse de voir ça. Et Hervé, pareil, team sucré ou team salé?
Ah, je suis hésitant Yves. Allez, on va partir sur du salé.
Oh, salé également. On retrouve votre chronique en deuxième partie d'émission. Chers auditeurs et auditrices, c'est parti pour une émission sucrée, même si plutôt c'est équipe salée hein, autour de la table.
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Si l'on reprend la définition du dessert, que l'on peut trouver par exemple sur Wikipédia, il est écrit que dans la culture occidentale moderne, le dessert est le dernier plat servi au cours d'un repas typiquement composé d'aliments sucrés, des fruits, des pâtisseries, des sorbets, des flans, etc. Mais aussi, de façon plus ancienne, il y a le fromage. Le dessert comprenait le fromage. Fin gourmet et gourmand, Louis Armstrong, avec son cheesecake dont nous venons d'écouter un petit extrait, faisait déjà un bel hommage au dessert. Nous allons parler donc de dessert aujourd'hui, mais également de gastronomie avec mon invité du jour. Je reçois Marc Bourigeau, le dirigeant du Crémet d'Anjou. Bonjour Marc, bienvenue dans le studio de Radio G.
Bonjour Yves, merci de m'avoir reçu.
Eh bien avec grand plaisir, pensez bien à vous mettre devant le micro Marc pour que les auditeurs vous entendent bien. Alors, ma première question est extrêmement simple. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore ce qu'est le Crémet d'Anjou, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors le Crémet d'Anjou, c'est un dessert emblématique de notre région qui est composé de blanc d'œuf, de fromage et de crème qui sont battus. Et donc, ça se sert en dessert souvent avec un coulis de fruits rouges.
Un coulis de fruits rouges, des fruits rouges locaux, ça serait...
Oui, éventuellement.
Éventuellement, si on peut.
Notamment le cassis, peut-être, parce que le cassis, nous sommes les deuxièmes producteurs français de cassis.
Ah ben... Ok, je ne savais pas du tout. Chef, ouais, vous confirmez, non, vous ne saviez pas?
Mais moi, je ne savais pas non plus. On en apprend des choses,
mon chéri. On en apprend tous les jours. Alors, est-ce que, Marc, vous pouvez nous parler des origines du Crémet d'Anjou, s'il vous plaît.
Eh bien, en fait, souvent une recette, c'est le fruit du hasard. C'est des mélanges qu'on croit impossibles. Et donc, c'est une cuisinière qui s'appelait Marie Renéum qui a, étant pressée un soir pour un dessert, a mélangé des œufs et de la crème. Et de là est né le crémet d'Anjou. Voilà.
Ok. Tout simplement.
Et tout alors, simplement.
Est-ce que justement cette recette a évolué depuis sa création dans ses fins du 19e, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, elle a évolué notamment parce que dans le cadre de distribution, lorsqu'on fait un crémet chez soi, bon, c'est assez facile à réaliser. Lorsque l'on veut le distribuer, on rajoute du fromage puisqu'en fait, ça permet d'avoir une DLC beaucoup plus importante et donc de pouvoir avoir une distribution sur des endroits plus lointains.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez repréciser exactement les ingrédients?
Alors, du fromage frais, ouais. de la crème fraîche et des blancs d'œufs montés en neige.
Alors, c'est du fromage frais de vache?
Alors oui, nous sommes sur des fromages de vache. On n'a jamais essayé, pourquoi pas un jour au fromage de chèvre, hein,
pour... Ah ben oui,
c'est tout
pas.
À fait, c'est tout à fait envisageable
une,
aussi.
Une innovation.
Voilà.
Comment vous sélectionnez justement vos différents ingrédients, Marc?
Alors, en fait, il faut que ce soit des produits qui soient riches en matières grasses. Donc, aujourd'hui, malheureusement, on en joue, on ne trouve pas des producteurs qui soient capables de nous fournir autant de matière. Donc, nous travaillons avec une crème AOP d'Isigny.
Ok, crème AOP d'Isigny.
Donc, en fait, ce sont souvent des jerseyaises qui ont un lait qui est relativement gras.
Oui, mettez bien le ouais. quand vous tournez la tête, on vous entend moins oui. bien. Après, si vous pouvez tourner le micro un peu vers vous.
Ouais, comme voilà. Ça. Non, c'est parce que j'aime bien
vous,
regarder.
Comme ça, on peut se regarder en même temps. Ben oui, c'est très important. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le processus de production de ce dessert emblématique d'Anjou?
Ben, le processus, en fait, il passe par trois phases. C'est de foisonner le fromage, de foisonner la crème, puis après on monte des blancs en neige et après c'est l'association de ces trois produits qui donne le crémet d'Anjou.
D'accord. Au niveau de la distribution de votre dessert, justement, comment vous fonctionnez?
Alors, donc, à aujourd'hui, donc, c'est une entreprise familiale déjà. Donc, en fait, c'est le papa, la maman et les deux fistons. Et donc, pour la distribution, on avait repris cette société à Monsieur Alain Favreau qui l'avait créée en 2013. Et à l'origine, ils étaient plutôt sur une distribution en grande surface sur la région angevine. Et en fait, notre objectif est complètement différent puisque nous avons obtenu des médailles d'or et d'argent dans des concours maintenant internationaux. Et ça nous donne une certaine légitimité pour pouvoir pousser plus loin. Et notamment, là, actuellement, on travaille sur Paris pour développer, soit dans la restauration parisienne et développer aussi. On est maintenant référencé à Rungis. Et en fait, on commence à être distribué un petit peu chez tous les crémiers fromagers de France.
D'accord. Alors, vous parliez de la DLC juste avant. Combien de temps ça se conserve un crémet?
Alors, un crémet d'Anjou, enfin, on va dire officiellement par rapport à la grande distribution, c'est de 21 jours. Mm-hmm. Mais bon, c'est une date qui peut être plus importante. On peut monter jusqu'à 28 jours pour pouvoir faire
pour le consommer.
Voilà.
D'accord. Alors, il existe un restaurant sur Angers qui s'appelle Crémet d'Anjou. Est-ce que ça a un lien avec votre entreprise, Marc Bourgeois ?
Complètement. Donc, en fait, c'est monsieur et madame Favreau, les créateurs du Crémet, qui auparavant avaient ce restaurant sur Angers. Et ils servaient systématiquement des Crémets d'Anjou en dessert. Et je pense que les clients leur ont dit que c'était vraiment exceptionnel. Et à partir de là, ils leur ont donné l'idée de créer vraiment une société pour le développer à travers l'Anjou.
D'accord.
Maintenant, nous, on remercie quand même ces gens-là parce que, en fait, ils ont réussi à trouver le process idéal pour arriver à le diffuser, quoi. Ce qui n'était pas évident au départ.
Ok. Alors, avant de laisser la parole à Alexis pour sa chronique, nous allons jouer. Here we go! Alors Marc, j'ai pris pour habitude, hein, dans l'émission de faire des petits jeux. Des mini-jeux de questions-réponses. Et on commence d'abord par une carte d'identité de l'entreprise. Est-ce que vous êtes prêt?
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de l'entreprise?
Le Crémet d'Anjou.
Son année de création?
Alors, 2013.
Combien êtes-vous?
Alors, actuellement, nous sommes 4.
Où êtes-vous situé?
Nous sommes situés au marché d'intérêt national, c'est-à-dire là où se trouvent plusieurs producteurs et de grossistes en alimentaire.
Ok, donc le mine quartier Saint-Serge.
Tout à fait.
Et quelle est l'adresse de votre site web?
Alors, www.lecrémetdanjou.fr.
Ok, et quel est votre chiffre d'affaires annuel?
Alors, notre chiffre d'affaires, il tourne environ à 380 000 euros.
Ok, merci beaucoup Marc pour ces réponses.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Lors de la dernière émission, donc Alexis Desjeux nous avait parlé effectivement des pensées limitantes qui pouvaient nous empêcher d'avancer via le prisme de l'assertivité. C'est le moment d'écouter la suite de cette belle chronique d'Alexis Desjeux.
Mieux vivre ensemble avec assertivité. Une chronique d'Alexis Desjeux.
Bonjour chers auditeurs, quel que soit votre genre, obédience et autres croyances toutes personnelles. Effectivement, il y a 15 jours, nous avons abordé les pensées limitantes qui sont un des facteurs qui amènent à manquer d'assertivité, selon Marie Verguet, coach en intelligence relationnelle. Pour prolonger cette réflexion, je vais vous donner maintenant l'explication des deux autres facteurs qui vous limitent sur le chemin de l'assertivité. Tout d'abord, notre éducation à la française, et ensuite, les codes de votre environnement professionnel. Concernant l'éducation à la française, la plupart du temps, notre éducation à la française nous apprend à être dans la norme, dans l'hyper-respect de la hiérarchie, dans une parole cadrée, mesurée, juste, sans aspérité. Elle nous inculque le non-droit à l'erreur, elle nous amène à toujours plus de contrôle, contrôle des émotions, contrôle des mots, contrôle de notre communication non verbale, contrôle de notre comportement, voire contrôle de nos idées. Bref, nous baignons dans un océan de contraintes et d'injonctions que nous avons intériorisées et dont parfois nous ne questionnons même plus la véracité, la pertinence ou le sens. Alors, plusieurs conseils pour sortir de cette éducation à la française. Premier conseil, je vous invite vraiment à valoriser les vertus de l'échec. Et oui, selon Charles Pépin, philosophe contemporain, auteur du livre éponyme, c'est parce que l'on échoue que l'on réussit. Mais oui, l'échec est une étape vers la réussite. L'échec est une école. On s'améliore. D'ailleurs, Thomas Edison, inventeur de la lumière, a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné. » De même pour Darwin, De Gaulle, la chanteuse Barbara, Nadal, bref, tout plein d'exemples que Charles Pépin reprend dans son livre sur les vertus de l'échec. En France, il faut réussir tout et tout de suite et tout le temps. Si on rate, on le paiera toute sa vie. Ça, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Je m'insurge contre cette éducation à la française, arrêtons de stigmatiser l'échec et faisons-en un atout vers le chemin de la réussite. C'était mon premier point pour sortir de cette éducation à la française. Le deuxième, eh bien, soyez un peu rugueux dans vos échanges. Monsieur de La Rochefoucauld a dit « Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit ». Je vous laisse méditer sur cette phrase. Le troisième facteur limitant, ce sont les codes de notre environnement professionnel. Vous pouvez être amené à évoluer dans des environnements professionnels où votre manager, votre direction, vos collègues peuvent avoir des difficultés à entendre la divergence de propos, les prises de position originales ou innovantes, votre personnalité un peu affirmée ou encore l'importance de la relation et du dialogue dans la réussite d'une entreprise ou d'une équipe. Là aussi, cet environnement professionnel peut vous brider et vous gêner dans votre manière de vous exprimer, sortir hors du cadre. Parfois, vous allez être perçu comme malvenu. Une piste pour sortir de cette ornière est de privilégier les entreprises à mission, les entreprises dites libérées, les scopes. Toutes ces sociétés ont la philosophie d'une vision où l'épanouissement du personnel est stratégique et au centre du projet de l'entreprise. Voici donc, si vous identifiez ces facteurs bloquants, les pensées limitantes, l'éducation à la française et l'environnement professionnel, les codes de l'environnement professionnel, vous faites déjà un pas vers le mieux vivre ensemble. Alors je vous invite, si vous le souhaitez, à suivre ce chemin avec l'aide d'un professionnel et ou de vos proches pour gagner en confiance en vous et ainsi avoir des relations plus apaisées avec votre entourage. Prenez soin de vous et de vos proches, faites les choses avec plaisir, audace et envie, si ça vous branche. Et j'ai une question pour notre invité. Avez-vous un exemple de situation d'échec qui a été constitutive d'une réussite derrière ?
Ce qui est assez amusant dans vos propos, c'est que, en fait, avant de réussir, j'ai toujours échoué. Et donc, en fait, comme tu dis, on apprend aussi de nos échecs. Et voilà, il faut, en tant que chef d'entreprise, suivre ses idées, construire sa stratégie en pensant que c'est la bonne et la suivre jusqu'au bout. Donc, voilà.
Merci, Marc.
Merci beaucoup, Alexis.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, Marc Bourigeau, est-ce que... Il faut me le dire si j'écorche votre nom de famille. Hein. Marc Bourigeau. Ok, très bien. Marc Bourigeau. Votre entreprise, donc il y a le Crémé d'Anjou, donc date depuis la fin du 19e siècle. Donc vous avez repris en 2013. Hein,
voilà. Enfin, monsieur et madame Favreau ont créé en 2013 et nous on a repris en 2017.
Ah, et vous avez repris en 2017. Ok, très important de le préciser. Est-ce que justement vous essayez de vous adapter au fil du temps aux attentes des consommateurs, s'il y a des retours, ce genre de choses ?
Mais, enfin, c'est un peu ce que l'on disait dans la stratégie, c'est qu'aujourd'hui un chef d'entreprise doit s'adapter en permanence. En fait, il y a pas de vérité. Là, en l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, on a maintenant des médailles d'or, des médailles d'argent, donc ça nous légitime auprès d'un public plus connaisseur, plus qualitatif. Donc à aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller plutôt vers des cafés, hôtels, restaurants, d'aller vers des crémiers fromagers qui sont vraiment qui vont être en phase un petit peu avec notre produit.
Est-ce que vous avez des anecdotes justement sur la réaction des gens à propos du Crémé d'Anjou?
Ben, je dirais la meilleure expérience, c'est en fait on fait partie d'une association qui s'appelle le Collège culinaire de France. Et donc c'était la grand-messe à Paris il y a quelques temps. Et donc on avait présenté nos crémets. Et donc là le chef Franck Poupard du Cordon Bleu vient nous voir. Et en fait quand il a eu goûté ça, il a dit mais c'est incroyable. Et donc de là ça nous pousse justement grâce à ces gens-là à aller vers la qualité quoi.
Et alors justement en tant qu'entreprise de l'Anjou, comment est-ce que vous contribuez à la communauté locale? Est-ce que vous êtes investi localement?
Alors de toute manière, en fait, l'idée, quand on a repris cette société, c'est aussi, je suis angevin de naissance, donc l'idée, c'était vraiment d'arriver à faire connaître notre région au travers toute la France. Donc, on a démarré avec, comme je le disais, la grande distribution sur le Maine-et-Loire. Mais à aujourd'hui, notre volonté, c'est d'aller prêcher le Crémet sur la France entière, quoi, et de faire connaître notre région, qui est une région assez exceptionnelle, quoi, avec la Loire. Enfin, on est dans une région formidable, quoi.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont justement faits en Anjou. Vous avez d'ailleurs ce label, non ?
Oui, alors on a le label produit en Anjou, effectivement. Après ça correspond à tout secteur d'activité. Hein, donc, c'est assez large. Mais effectivement, d'ailleurs, dernièrement, il y a eu Made in France. On a des entreprises de produits en Anjou qui sont allées à l'Élysée pour promouvoir aussi leurs produits. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant.
Et vous n'avez pas été promouvoir le Crémé d'Anjou auprès du président ?
Alors... l'ultra frais, c'est assez compliqué en fait. C'est la différence avec soit les produits secs ou alors avec l'industrie. Enfin, c'est que nous, ça demande une mise en route, une mise en place qui est très compliquée. Donc ça, c'est vraiment la problématique majeure de l'ultra frais, c'est que, je prends notamment le cas de la logistique, c'est vraiment la problématique. Et d'ailleurs, on a créé depuis avec notre dernier fils une petite entreprise qui s'appelle Translocal. Et en fait, maintenant, on mutualise avec les petits producteurs locaux pour éviter que plein de véhicules circulent.
C'est génial, ça.
Voilà. Donc maintenant, il faut que les gens adhèrent à tout ça, ce qui n'est pas toujours facile, parce que le petit producteur est souvent une personne qui travaille toute seule et qui a du mal à échanger, quoi. Donc, il faut vraiment faire évoluer ces mentalités.
Complètement. Alors, donc, vous participez à des salons, par exemple, des grandes messes donc, autour du Made in France aussi. Est-ce que vous organisez ou participez à des événements beaucoup plus privés, c'est-à-dire des événements d'entreprise ou même des événements pour les particuliers?
Alors, aujourd'hui, pas vraiment. On fait des salons locaux, style, on a fait Viti Saveur, qui était un salon basé sur la gastronomie, Art et Saveur aussi, qui a lieu au centre des congrès. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas de... En fait, il y a des grands salons professionnels comme Serbotel à Nantes, des choses comme ça, mais aujourd'hui, on ne participe pas encore à tout ça. D'accord. Mais on préfère être adoubé par un chef d'un grand restaurant avec lequel il va falloir... pour moi, ma génération n'est pas habituée, mais avec les réseaux sociaux, c'est effectivement un vecteur de développement qui est très, très important, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement envisager, ou vous pouvez envisager, donc avec un chef au niveau local, aller dans les entreprises et il peut faire la promotion et faire du Crémé d'Anjou en live.
Complètement, voilà. Complètement. Alors on l'avait démarré avec Papillote et compagnie, la cuisine centrale d'Angers. Malheureusement, on est sur un produit qui est beaucoup trop cher pour la collectivité. Donc ça n'a pas continué, mais on avait déjà été dans les écoles montrer aux enfants comment faire du Crémé d'Anjou.
Ah, ça, c'est chouette. Et alors, les enfants, ils ont...
Ouais, ils ont adoré, oui. Chouette, c'était très sympa. Ouais.
Bah, dès lors qu'on leur fait un peu de cuisine, hein, de toute façon, les enfants, généralement, ils adorent. Vous nous avez donné l'eau à la bouche hein, depuis le début de l'émission, mais il est temps un peu pour nous de nous désaltérer, hein, parce qu'avec autant de sucre, c'est bien de boire un petit coup aussi. Donc, on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter le titre « Don't Leave Me Now » de Supertramp. On reparle de ce choix musical avec mon invité Marc Bourrigo, juste après. Bonne écoute sur Radio G.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Vous êtes toujours branché sur Radio G, toujours à l'émission de à l'écoute de l'émission Les Voix de l'écho. Ouh, la fin d'année arrive, vivant les vacances quand même. Je suis en compagnie donc de mon invité Marc Bourigeau et aussi en compagnie donc de mes deux chroniqueurs Alexis et Hervé. Nous venons d'écouter donc Don't Leave Me Now de Supertramp. Pourquoi avoir choisi ce titre musical, Marc ?
Ben, en fait, ma génération, on a été un peu baigné dans tous ces groupes américains, les Pink Floyd ou anglais, la Police, Dire Straits, tous ces gens-là. Et en fait, moi, j'adore les solos de guitare électrique et je trouve que dans ce morceau, on s'en voit bien, quoi.
Il y en a pour notre argent, comme on dit.
Et en plus, j'avais vu l'autre fois, il y avait M qui était justement avec Supertramp et il faisait le solo de guitare. C'était franchement magnifique,
quoi. Ouais, génial. Mmh, voilà. Alors, depuis le début de l'émission, on parle du crémé d'Anjou, on parle de sucre. On est team plutôt salé, hein, comme on a pu le voir en introduction de l'émission autour de cette table dans le studio. Est-ce que justement, Marc, il y a une déclinaison du crémé d'Anjou qui peut être en salé ?
Effectivement, c'est un nouveau produit que nous avons lancé et on s'est aperçu que le crémé se mariait très bien avec des saumons, des chorizo, des tomates séchées. Et donc, on a lancé une gamme de verrines salées. Mais bon, elle est balbutiante pour l'instant. Mais l'idée, en plus, c'est de pouvoir associer des producteurs locaux. En l'occurrence, pour le saumon, on utilise le saumon de la société DPAP, le groupe Pédrocian. Donc voilà, l'idée, c'est même globalement que ça soit sucré ou salé, on essaye d'avancer avec des gens, des partenaires locaux. Notamment, on a le crémé Cointreau. Okay. Donc c'est Cointreau qui nous a sollicité pour pouvoir le fabriquer et on fourmille d'idées, on pourrait envisager un crémé au coteau du Layon, rosé de Loire, à l'amande Giffard, au Guignolet, voilà, il y a vraiment pléthore de solutions. Maintenant, on n'a pas la R&D chez nous est quand même assez limitée puisqu'on est peu nombreux. Mais c'est vraiment aussi ça l'idée, c'est de promouvoir notre produit, mais avec d'autres producteurs locaux, producteurs ou faisant comme Giffard. Bon, c'est maintenant des sociétés qui rayonnent très large, mais voilà, c'est vraiment c'est l'idée, quoi.
Et alors justement, la base finalement du crémé d'Anjou, c'est quelque chose qui peut se marier avec beaucoup de choses.
Ah, complètement. C'est à l'infini, quoi.
Comme on pourrait penser, même pour le côté salé, moi, ce qui me vient en tête un peu, c'est le côté... alors, tant pis, j'ai cité une marque, mais Boursin, par exemple, chose avec des fines herbes, quoi.
Voilà, c'est ça. Pour l'instant, on est aux prémices aussi, mais on aimerait travailler avec la société Bioplan qui fait des micro-pousses, parce qu'effectivement, ça apporte plein d'idées, quoi. Donc, effectivement, il y a après de la betterave, du thon, de l'avocat, enfin on peut aller partout. Maintenant, la problématique, c'est la distribution. C'est ce qu'on dit toujours, c'est que les idées, c'est bien, mais il faut que derrière, on puisse envoyer. Donc,
oui, c'est un vrai défi, là,
voilà,
effectivement.
Complètement.
Vous avez parlé des récompenses qu'il y a eu tout à l'heure, vous en avez cité quelques-unes. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ces différentes reconnaissances et récompenses que vous avez eues avec le crémé d'Anjou, Marc ?
Alors, on, tous les ans, on envoie des produits au concours international de fromage de Lyon. Et en 2022, donc on a été médaillé d'or sur le crémé d'Anjou et médaillé d'argent sur le crémé au Cointreau. Et l'année dernière, on a été médaille d'or sur le nature. Et cette année, autre bonne nouvelle, on a donc créé un crémé au caramel beurre salé d'Isigny. Et donc, nous sommes médaille d'or depuis 3 jours.
Ah oui,
auprès du caramel. Donc là encore, une association auquel on n'aurait pas forcément pensé, et preuve en est que ça fonctionne.
Ouais, donc il y a beaucoup quand même de projets, d'innovation à venir encore. Et justement, comment vous envisagez cet avenir du crémé d'Anjou ?
Alors, C'est toute la problématique des petits producteurs, c'est qu'à un moment, on passe de petits producteurs à semi-industriels. Donc, en fait, il faut arriver à faire cette transition. Et c'est vrai qu'à aujourd'hui, elle est pas facile à faire parce qu'il faut déjà mécaniser. Donc, mécaniser, ça veut dire que votre produit, derrière, faut pas qu'il se transforme par l'industrialisation. Donc, tout ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Il faut agrandir les laboratoires. Donc voilà, donc on est aujourd'hui vraiment dans une stratégie de réflexion, savoir comment on va avancer, quoi.
Oui, il faut préserver finalement l'authenticité du produit.
Complètement. Donc ouais. c'est pas facile d'arriver à lier les deux. D'ailleurs, les gros industriels, en fait, ils reprennent en marketing des noms anciens, genre la laitière ou des choses comme ça, pour donner cette impression de petite production. Mais voilà, c'est vraiment la réflexion du moment.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Est-ce qu'on va continuer à se développer? Est-ce qu'il faut, voilà, mais on n'a pas trop le choix, je serais tenté de dire.
Alors, avant de laisser la parole au chef Hervé Chesneau, comme tout à l'heure, nous allons jouer.
Here we go!
Pour ce deuxième jeu, Marc, nous allons faire votre propre portrait chinois. Est-ce que vous êtes prêt? Alors, quel est votre plat de cuisine préféré?
La blanquette de riz.
Votre série préférée?
Série?
Oui.
Alors, je suis pas trop. Alors, je regarde pas trop la télé, donc je peux pas trop répondre.
Il n'y a pas de souci.
Voilà.
Okay.
Ça va être une vieille. Ça sera des vieilles séries amicalement vôtres.
D'accord. Très bien. Quelle est votre couleur préférée?
Le bleu.
Votre sport préféré?
Le rugby.
Votre ville préférée?
Angers.
Votre dernier lieu de vacances?
Alors, mon dernier lieu de vacances, c'est les Hautes-Alpes, parce que, en fait, j'ai tenu pendant 7 ans des gîtes dans une vallée qui s'appelle la vallée du Champsaur, à côté de Gap. Et en fait, c'est notre deuxième pays, quoi.
Okay.
Donc, c'est à côté de Gap.
Super. Alors, je pense que j'ai la réponse, mais est-ce que vous jouez aux jeux vidéo?
Non.
Pourquoi vous levez-vous le matin?
Parce que je suis motivé par mon travail. Voilà, j'adore ce que je fais.
Génial. Merci beaucoup, Marc, pour vos réponses.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, il nous a promis de mettre des choses dans la soupe, le chef Hervé Chesneau, comme faisaient apparemment nos mamies. Alors, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Nous écoutons maintenant la chronique du chef Hervé Chesneau.
De la fourche à la fourchette. Une chronique du chef Hervé Chesneau.
Alors, je suis désolé pour notre invité, on va sortir un petit peu du sucré. Mais souvenez-vous, Yves et Alexis, il y avait une dame pas très jeune, mais au doux visage souriant. Elle était assise devant vous, face à la table de la cuisine, et épluchait ses légumes. C'était en fin d'après-midi. La cuisinière irradiait d'une douce chaleur et vous regardiez votre grand-mère préparer la soupe, laissant tomber ses épluchures sur un journal périmé. Il y avait des navets, des carottes, des poireaux, des pommes de terre, qui voisinaient parfois avec un morceau de viande posé juste à côté, queue de bœuf, eau samouel, saucisse. Il y avait aussi 1000 manières de faire la soupe, soit avec des ingrédients coupés en morceaux rustiques ou en julienne, versé directement dans de l'eau salée, soit avec les mêmes, mais revenus auparavant dans la poêle avec un peu de graisse. Grand-mère pouvait aussi passer ses légumes crus au moulin pour en tirer des copeaux qu'elle jetait dans un bouillon de poule. Vous sentez déjà, Yves? Ou bien écraser des pois cassés qui, mélangés avec du lard, faisaient une sorte de magma si épais que la cuillère tenait toute seule dedans. La soupe, elle était sur la table, midi comme soir, été comme hiver. Son odeur se répandait dans la cuisine tout au long de la journée, car elle était posée sur un coin du fourneau à bois, qui ne s'éteignait jamais, à frissonner très lentement. On avait l'impression qu'elle était là, disponible à toute heure, pour celui qui en voulait. C'était une image d'Épinal qui hante encore les mémoires de ceux qui ont eu la chance de la connaître. une dame au tablier bleu avec un chignon ou une coiffe sur la tête, en train de touiller d'une langue spatule de bois un odorifant mélange. Grand-mère était dans son potage, sa soupe, son brouet, son consommé. Bref, elle faisait ce pourquoi on l'imaginait faite à tout jamais le repas. La soupe nourrit. Les anciens avaient découvert toute la valeur nutritionnelle de la soupe, mélangeant dans celle-ci des ingrédients de toutes sortes, pain, lait, viande, riz, féculents, céréales, œufs et vin. Les légumes perdent à la cuisson une partie de leurs vitamines, tout le monde le sait, mais l'eau dans laquelle ils cuisent se charge de leurs sels minéraux et des vitamines restantes. D'autre part, au lieu de manger un seul légume, on en mange plusieurs, ce qui est loin d'être négligeable. Les calories diffusées par une soupe vont dépendre de ce qu'on y met. Nous parlons plus haut du bouillon et tout le monde peut comprendre qu'un bouillon de poule renferme plus de gras qu'un bouillon de navet. Les différences se feront aussi avec ou sans le dégraissage, ainsi qu'avec les accompagnements, pain, vermicelle, pâte, semoule. Le pain est le tout premier d'entre eux, et ce depuis la nuit des temps. À croire que les deux sont indissociables. Et ils sont souvent dans les recettes, comme dans la pratique, l'une apportant la valeur de ses composants, l'autre délivrant ses protides, lipides, glucides et vitamines. Pour preuve que la soupe est nourriture, il suffit de se plonger dans notre vocabulaire de « gros plein de soupe », « à vous, mangerez bien de la soupe », jusqu'à « venez souper » ou au clair militaire sonnant « la soupe ». Elle est là à la base des expressions qui signifient qu'il est temps de se mettre à table. Mon cher Marc, est-ce que vous ne vous souvenez d'une soupe ou d'un potage de votre grand-mère ?
Alors moi, je me souviens de soupe avec des petites nouilles, avec les lettres.
Le vermicelle.
Le vermicelle. Et après, on pouvait écrire son prénom en mangeant la soupe.
Sur le bord de l'assiette.
Voilà. Alors moi, j'aime bien la soupe de pot-au-feu, justement, avec le vermicelle.
Ah oui, intéressant. Merci beaucoup, Hervé, pour votre chronique.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors Marc Bourigo, pour cette toute dernière partie d'émission, je voudrais aborder des choses un peu plus transversales que le dessert ou que le salé ou que la cuisine. Et notamment, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre quotidien au niveau de l'entreprise pour être éco-responsable ?
Alors, effectivement, à l'origine, c'est pas très respectable, mais on travaille avec des pots plastiques. Et donc, on est en partenariat avec Citeo, c'est-à-dire qu'on reverse sur chaque pot un centime pour Citeo. Après, on l'a mis en place, comme je l'avais dit auparavant, avec Translocal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de logistique, on mutualise, donc ce qui fait qu'en fait, on économise pratiquement deux ou trois véhicules, ce qui n'est pas négligeable. Après, aujourd'hui, dans le transport, l'électrique est malheureusement pas encore assez développé, c'est-à-dire que sur les tournées, on peut pas faire assez de kilomètres, mais bon, l'idée, c'est aussi à terme de pouvoir s'équiper de véhicules électriques. Et puis peut-être aussi sur Angers, faire de la livraison plutôt en vélo, enfin d'être...
Oui, il y a pas mal de choses encore voilà. Et d'axes d'amélioration à ce niveau-là.
Notamment parce que aussi, et ça c'est le côté un peu désagréable, c'est que tout est vraiment très normé et qu'à aujourd'hui, dans certains cas, les normes RSE ont plus de valeur que la qualité du produit. Donc ça c'est un peu ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à cet administratif, ce juridique, et ça c'est complexe de démêler un peu.
Oui, finalement, ça peut être aussi un frein à certains développements.
En l'occurrence, à aujourd'hui, donc, on discute avec le groupe Accor et on n'a plus le droit de mettre du plastique sur les buffets. C'est que du verre. Donc à aujourd'hui, ça freine notre développement commercial et donc il faut repenser aussi un petit peu notre outil de production parce que ces marchés-là sont fermés pour nous.
Oui, parce qu'il n'y a pas forcément de pasteurisation au niveau du crémé d'Angers.
Alors on est en ultra frais, il n'y a pas d'additifs, pas de colorants, on est vraiment 100% naturel.
Oui, oui, donc ça peut freiner effectivement voilà. ce développement.
C'est ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que voilà, toutes ces normes nous posent beaucoup de problèmes.
Et alors justement, dans votre métier d'entrepreneur, vous travaillez en famille, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est plus simple ou plus complexe finalement de travailler en famille ?
Travailler en famille, parfois, en l'occurrence, en ce moment, c'est très bien. C'est parce qu'aujourd'hui, en termes de production, notre fils est complètement impliqué dans la production. Donc, quand on doit envoyer des grosses quantités, on est serein parce qu'on sait très bien qu'il arrivera à tenir ses engagements. Après, on peut ne pas être d'accord sur la stratégie. Et comme on est en famille, c'est des fois des discussions un peu compliquées, quoi.
Oui, mais ça veut dire aussi que vous vivez, vous dormez, vous mangez Crémé d'Anjou tout le temps.
On essaye de pas, en dehors du travail, de pas trop en parler. Bon, aujourd'hui, mes enfants ont leur famille, leur maison, donc on n'est pas non plus tous les jours ensemble. Effectivement, oui. S'ils habitaient à la maison, ça serait un peu...
ça serait différent.
Ça serait, mais là, non, on n'a pas ce... Non, je pense que c'est ce qui fait notre force aussi, c'est qu'on arrive vraiment à couper quand on n'est plus dans l'entreprise. Quoi.
Et alors justement, avant de reprendre cette entreprise, le Crémé d'Anjou, qu'est-ce que vous faisiez avant, Marc ?
Alors donc avant, en fait, je tenais des gîtes de groupe dans les Hautes-Alpes, dans la vallée du Champsaur. Donc on est des amoureux de haute montagne. Et donc on recevait des gens, des groupes d'handicapés, des skieurs de randonnée, des gens qui venaient faire de la raquette, de la randonnée. Donc c'était une prestation complète. On faisait le petit déjeuner, le pique-nique le midi, le repas du soir et le couchage.
D'accord.
Et donc, c'était très, très intéressant parce que, en fait, on a eu des échanges extraordinaires. On est avec des gens qui ont du vécu. C'était une clientèle qui était plutôt à la retraite. Donc, on a passé des moments, on a rencontré des gens incroyables. On a rencontré le type qui a formé Nicolas Vanier, qui faisait les chiens de traîneau. Et donc, c'est un type, un Belge qui habitait dans le nord Canada. Et en fait, qui vivait, il a 82 ans et il coupe son bois, il n'a pas de chauffage, pas d'électricité. Enfin, voilà, on a fait des rencontres, on a fait des rencontres avec le champion du monde de karatéka. Enfin, voilà, vraiment des choses assez, assez incroyables. Ouais. Et ça, c'est des pilotes d'avion, voilà.
Ouais, c'est des belles histoires.
Voilà, des belles histoires. Et puis surtout, on était dans une région où, sur le plan culinaire, c'était assez extraordinaire. On était dans un fond de vallée et on avait plein de plats que personne connaît. Ailleurs, on avait les tourtons, on avait les oreilles d'âne, enfin, on avait plein de choses c'était incroyable. Quoi.
Dans votre métier d'entrepreneur, qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimeriez partager à d'autres personnes qui veulent entreprendre ?
Moi, c'est les rencontres. Moi, ce que j'adore, c'est de rencontrer des gens nouveaux qui vont nous apporter aussi plein de choses. Quoi. Moi, c'est la base de mon métier, c'est la rencontre.
La rencontre.
Voilà.
Oui, de toute façon, le commerce, hein, c'est ça. Hein,
c'est ça. C'est non, mais même quand on avait des gens handicapés, enfin, je veux dire, on a fait des expériences, des enfants qui étaient super heureux chez nous. Donc, ça fait plaisir quand ils repartent et qu'ils ont la banane. Quoi.
Si un jeune vient vers vous et qu'il souhaite monter une entreprise dans l'alimentaire, quels sont les conseils que vous pourriez éventuellement lui donner ?
Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a un jeune actuellement qui s'est rapproché un peu de nous. Mmh. Et effectivement, l'idée, c'est d'avoir une stratégie et d'aller au bout de son raisonnement, de penser que, enfin, d'avoir de croire en lui déjà, et puis surtout de ne pas d'aller vraiment dans le sens qu'il souhaite aller pour développer. Bon, après, effectivement, comme disait Alexis, on peut aller vers l'échec, mais voilà, il faut être sûr de soi dans ce qu'on a envie de faire. Quoi.
Mais l'échec est formateur. Hein,
complètement, il nous l'a prouvé.
Il nous l'a bien dit, Alexis, encore tout à l'heure. Est-ce que vous avez une actualité chaude, éventuellement, pour 2024, quelque chose qui devrait arriver Alors là, vous nous avez donné tout à l'heure, il y a 3 jours, vous avez gagné donc un concours, mais est-ce qu'en 2024,
alors,
vous avez...
L'activité chaude, c'est dans le cadre de la R&D, là justement, on vient de réussir à surgeler nos produits. Et à garder la même qualité gustative en décongelé. Et donc ça nous ouvre des portes incroyables. Ah oui. Et en l'occurrence, j'étais donc au congrès de l'UMI, là, des hôteliers indépendants. Mm-hmm. Et en fait, on a rencontré des gens comme Relais d'Or et des gens comme ça, qui maintenant, avec qui on va pouvoir envoyer du... Et notamment, on travaille beaucoup en ce moment sur l'exportation au Japon.
D'accord.
En fait, les Japonais sont très friands de nos produits.
Très bien.
Et pour la petite histoire, dans les années 70, il y a un cuisinier français qui est parti vivre au Japon. Et en fait, il a développé le crémet d'Anjou là-bas. Et maintenant, ça s'appelle crème d'ange au Japon.
Ah. Eh ben, excellent. Merci pour cette super anecdote. Marc Bourrigo, on arrive à la fin de l'émission Les Voix de l'Écho. Merci beaucoup d'être venu nous parler.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Merci Alexis Desjeux et Hervé Chéneau pour vos chroniques. Merci de suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux et plus largement merci à toutes les personnes qui m'ont permis de préparer ce magazine des entrepreneurs de l'Anjou. Vous pouvez écouter le replay de cette émission sur le site de la radio. On se retrouve le mercredi 27 décembre de 12h10 à 13h sur le 105 FM ou via le web sur le site radio-j.fr. Vous pourrez écouter une émission surprise de fin d'année. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve le mercredi 27 décembre. Vous pouvez écouter dans un instant l'émission Les Voix de la Frappe. Prenez soin de vous et merci d'avoir choisi d'écouter Radio G.